Vous écoutez France Culture. On retrouve le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. C'était le dernier empereur du cinéma italien, le seigneur de toutes les fresques et de toutes les frasques. Déclaration ce matin de l'ancien président du festival de Cannes, Gilles Jacob, pour rendre hommage à celui à qui il avait remis une palme d'honneur. C'était en 2011, Bernardo Bertolucci, le réalisateur italien, auteur notamment du dernier tango à Paris, est mort ce matin à Rome à l'âge de 77 ans.
Dans votre journal également, Moscou a finalement rouvert à la navigation ce matin le détroit de Kerch qui sépare la mer d'Azov de la mer Noire.
Oui, la veille, les forces russes avaient arraisonné trois bâtiments de guerre ukrainiens dans le secteur, une flambée de violence telle que le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion d'urgence.
La confusion toujours en Syrie après que les autorités de Damas mais aussi de Moscou ont accusé hier les rebelles d'avoir eu recours à des armes chimiques.
Une attaque qui aurait fait une centaine de blessés à Alep. Selon le ministère russe de la Défense, les tirs provenaient d'un secteur aux mains des djihadistes dans la zone dite de désescalade instaurée dans la province d'Idlib.
Face à la fronde des gilets jaunes, l'exécutif assure toujours et encore vouloir garder le cap de la transition écologique.
Et notamment avec un pacte social d'accompagnement dont certaines mesures devraient être détaillées ce matin au Conseil des ministres. Et puis s'agissant plus particulièrement de la deuxième grande journée de protestation samedi dernier, marquée par des violences dont les images sur les Champs-Élysées ont fait le tour du monde, l'exécutif a choisi de désigner très clairement la responsabilité de l'extrême droite. Enfin, invité de ce journal à une semaine de la COP24 et alors que s'ouvre aujourd'hui le Climate Finance Day, nous serons en ligne avec Fanny Petitbon, responsable plaidoyer pour l'ONG Care France. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Jacquerie, le terme a refait surface depuis quelques jours. Est-ce anachronique? Comment qualifier le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui? Une révolte populaire? Un mouvement sans tête et spontané? Est-ce sa force ou sa faiblesse? On en reparlera avec notre invité, le grand historien Gérard Noiriel, sera avec nous à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure.
Parce que tu crois, toi, qu'un Américain, assis par terre, dans un appartement vide, à manger du fromage et à boire de l'eau, tu crois que c'est intéressant?
Il y a quelque chose là-dessous, tu entends? Il y a un vide. Can you hear it? It's hollow.
Yeah, that's a hiding place.
Voilà, vous aurez sans doute reconnu Maria Schneider dans un extrait du fameux dernier tango à Paris avec Marlon Brando. Bernardo Bertolucci, le cinéaste de la transgression, l'homme en l'occurrence par qui le scandale et la polémique étaient arrivés allant jusqu'à provoquer l'interdiction de son film en Italie, est décédé ce matin à Rome à l'âge de 77 ans. Réalisateur fécond, il restera comme l'un des grands maîtres du cinéma italien mais aussi mondial. Retour sur une vie entière consacrée au 7e art avec Yann Bertrand.
La passion de l'image et le savoir des lettres. Bernardo Bertolucci découvre la caméra en pleine adolescence grâce à son père, le poète Attilio Bertolucci. À l'époque, Fellini et Pasolini nourrissent sa débutante passion avant qu'il ne tourne son premier grand succès, Prima della Rivoluzione. À seulement 23 ans, déjà, son œuvre brasse le politique, le social, la sensualité. Quelques années plus tard, il signe aussi une grande fresque historique, Novecento, réunissant un casting ahurissant. Burt Lancaster, Robert De Niro et Gérard Depardieu.
Forza avanti, tutti!
Autre chef-d'œuvre, le dernier tango à Paris avec Marlon Brando et Maria Schneider. Et bien sûr, le dernier empereur couronné de 9 Oscars, dont celui de meilleur réalisateur en 1988. Crédité aussi au scénario d'Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, homme de tous les cinémas, d'une ambition folle au niveau technique et esthétique, Bernardo Bertolucci aura profondément marqué le cinéma mondial.
Depuis la tuerie le mois dernier dans un lycée de Kerch, rarement les habitants de cette petite ville portuaire de la péninsule de Crimée n'avaient eu à supporter un tel spectacle de violence. Hier, tandis que trois bâtiments de la marine ukrainienne tentaient d'entrer dans le détroit de Kerch, les forces spéciales russes, aidées de deux hélicoptères et deux avions militaires, ont ouvert le feu avant de s'emparer des navires. Une opération qui aurait fait entre 3 et 6 blessés parmi les marins ukrainiens. Quand Moscou accuse Kiev d'avoir mené des actes de provocation. La marine ukrainienne assure pour sa part avoir averti à l'avance la Russie de l'itinéraire de ses navires. Seule certitude, depuis l'annexion de la péninsule, la Russie revendique aujourd'hui le contrôle des eaux au large de la Crimée, en particulier l'accès donc au détroit de Kerch, seule voie maritime entre d'un côté la mer Noire et de l'autre la mer d'Azov. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors la Russie n'est pas seulement accusée d'entraver délibérément la navigation des navires commerciaux pour étouffer les ports ukrainiens, elle est également soupçonnée de vouloir préparer une offensive contre Mariupol, la dernière grande ville sous contrôle de Kiev dans l'est du pays, théâtre d'une guerre avec les séparatistes pro-russes.
Oui, la mer d'Azov et surtout le contrôle de ses eaux est en effet devenu depuis peu un enjeu de géopolitique locale, la nouvelle poudrière de la région, pour reprendre l'expression d'un commentateur ukrainien. Alors a priori, la navigation, la pêche, la circulation des navires tiers en mer d'Azov est régulée par un accord russo-ukrainien datant de 2003 et faisant de la mer d'Azov un territoire contrôlé conjointement et dont les eaux pouvaient être naviguées librement par les bateaux des deux pays. Sauf qu'en 2014, la Russie annexait la péninsule de Crimée, anciennement ukrainienne, et qu'en 2016, elle entamait la construction d'un pont relayant cette Crimée au reste du territoire de la Fédération de Russie. Un pont effectivement opérationnel depuis le printemps dernier qui enjambe le détroit de Kerch, l'unique porte d'entrée dans la mer d'Azov. Avec ce pont, la Russie relie enfin physiquement la péninsule de Crimée au reste de la Russie, mais dispose aussi d'un moyen de fermer physiquement l'accès à la mer d'Azov, simplement, comme on l'a vu ce week-end, en ancrant un tanker sous le nouveau pont en travers du détroit. Depuis le printemps dernier également, la Russie a clairement augmenté le nombre de ses bâtiments de guerre en mer d'Azov. Et ses navires garde-côtes ont multiplié les arraisonnements de bâtiments civils, ukrainiens ou battant en pavillon d'un pays tiers et transitant par le détroit. Près de 150 navires ont ainsi été arrêtés pour vérification et retardés dans leur livraison pendant à chaque fois près de 48 heures entre mai et fin août. De son côté, l'Ukraine, dont la marine se réduit à quelques petits patrouilleurs, la plupart de ses bâtiments importants ayant été saisis par les Russes lors de la prise de la Crimée en 2014, l'Ukraine a bien tenté au moins une fois de passer le détroit avec un bâtiment de guerre, avec succès en octobre dernier. Ce week-end, en revanche, une autre tentative s'est soldée par un échec complet et pire, par un acte de guerre. La Russie a en effet admis que ses propres navires ou ses aéronefs ont ouvert le feu sur les patrouilleurs ukrainiens. Deux patrouilleurs et un remorqueur sont actuellement détenus par les Russes et la vingtaine de marins ukrainiens se trouvant à leur bord sont désormais prisonniers de la Russie.
Merci Éric Biegala et j'ajoute que la tension donc est telle que le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion d'urgence. Le gouvernement de coalition italien pourrait se réunir ce soir pour discuter d'une possible réduction de son objectif de déficit pour 2019. C'est du moins ce qu'a déclaré ce matin une source gouvernementale. Objectif pour le gouvernement de coalition, éviter l'ouverture par l'Union européenne d'une procédure disciplinaire. Si hier encore, après des mois de pourparlers infructueux, Theresa May pouvait sans doute être soulagée d'avoir enfin arraché un accord sur le Brexit avec l'UE. La signature des 27 n'était cependant pas l'ultime étape de ce long processus de divorce, de sorte que 24 heures plus tard à peine, la première ministre britannique se retrouve déjà contrainte de repartir à la charge pour obtenir cette fois-ci et à marche forcée l'approbation du Parlement britannique avant Noël. Le ministre britannique des Affaires étrangères Jeremy Hunt a lui exprimé sa gratitude ce matin après la grâce accordée par les Émirats Arabes Unis au jeune doctorant Matthew Hedges, condamné la semaine dernière à la réclusion à perpétuité pour espionnage au profit d'un pays étranger. Dans un pays ravagé par une guerre qui a déjà fait plus de 360 000 morts, ce n'est pas la première fois que les belligérants s'accusent mutuellement de mener des attaques à l'arme chimique, suscitant à chaque fois un tollé à travers le monde. Sauf que si le plus souvent Damas est accusé par les rebelles de faire usage de ces armes interdites par le droit international, cette fois-ci l'attaque a été imputée par les autorités de Bachar el-Assad à des groupes terroristes, selon la terminologie habituelle qui ne fait pas de distinction entre djihadistes et rebelles. Aurélien Collier, bonjour, vous êtes en direct de Beyrouth. Alors la situation est encore ce matin relativement confuse quand l'Alliance rebelle dément toute implication. Les groupes djihadistes se refusent pour l'instant à réagir. Est-ce que des roquettes contenant des gaz toxiques ont bien été tirées sur la métropole d'Alep, entraînant notamment des cas de suffocation parmi les civils?
Oui, et des bombardements russes en représailles, les premiers depuis octobre, depuis l'accord russo-turc qui a créé une zone démilitarisée autour de la province d'Idlib, le dernier bastion rebelle que Damas veut reprendre alors que son allié russe a préféré pour l'instant s'entendre avec la Turquie qui est déployée dans la province. Alors ces bombardements ont visé le nord-ouest d'Alep, des secteurs de la zone démilitarisée non contrôlée par Damas, contrairement au reste de la ville. Selon Moscou, les cibles étaient des positions terroristes, d'où sont parties l'attaque chimique. D'où est partie l'attaque chimique, pardon, selon des médias pro-russes, des positions même de la coalition islamiste issue de la branche syrienne d'Al-Qaïda, celle qui contrôle 2/3 de la province d'Idlib et qui a accepté sous la pression turque la zone démilitarisée. Sauf que ces secteurs bombardés sont en réalité sous le contrôle du Front National de Libération. C'est l'autre coalition rebelle, modérée, issue de l'armée syrienne libre. Elle est soutenue par Ankara et elle a accepté sans rechigner la zone démilitarisée. Son porte-parole dément toute attaque chimique, parle de mensonges du régime syrien qui pourrait même avoir tout orchestré pour faire échouer l'accord sur Idlib. C'est ce que dit aussi le négociateur en chef de l'opposition syrienne en exil. Ce qui est sûr, c'est que Moscou et Ankara ont évoqué l'attaque de samedi soir, les représailles russes hier, que l'accord tient pour l'instant, mais que cette escalade intervient dans un contexte tendu diplomatiquement. La Russie s'agace d'abord de la présence militaire américaine dans l'est de la Syrie, zone riche en pétrole dont a besoin le régime, et la Russie s'agace aussi de la pression des Occidentaux et de l'ONU pour la formation d'un comité constitutionnel qui doit intégrer l'opposition avant la fin de l'année.
Merci Aurélien Colli en direct de Beyrouth. En Afghanistan, au moins 22 policiers ont été tués ce matin dans une embuscade des talibans dans la très instable province de Farah dans l'ouest du pays. Ce alors que les insurgés semblaient pourtant donner des signes de vouloir négocier un accord de paix avant la prochaine présidentielle prévue l'an prochain. Aux États-Unis, c'est aujourd'hui que doit débuter le procès de James Alex Fields. C'est lui qui en août 2017 avait foncé avec sa voiture dans une foule de contre-manifestants à Charlottesville. Ce militant néo-nazi avait provoqué la mort d'une jeune femme et blessé une trentaine de personnes. Or, à l'époque, on s'en souvient, Donald Trump avait refusé, dans un premier temps, de condamner les suprémacistes blancs qui avaient appelé à manifester. C'est une correspondance sur place de notre envoyé spécial, Grégory Phillips.
James Alex Fields est sous le coup de 30 chefs d'inculpation, dont celui de crime de haine. L'homme a 21 ans, originaire du Kentucky mais vivait dans l'Ohio avec sa mère. Il était venu exprès à Charlottesville au volant de sa Dodge Challenge grise pour participer à cette manifestation intitulée Unite the Right Rally, le rassemblement de toutes les droites, extrême droite, néo-nazis, suprémacistes blancs s'étaient donné rendez-vous à Charlottesville pour défendre la statue équestre d'un général sudiste. Dans les heures qui précèdent le drame et alors que les militants d'extrême droite se sont opposés à des groupes de contre-manifestants, des photos montrent Fields arborant le bouclier d'un groupuscule néo-nazi nommé Vanguard America. Dans la presse, des proches du jeune homme, d'anciens enseignants notamment, ont depuis décrit un adolescent fasciné par Hitler et par l'histoire du Troisième Reich, mais aussi quelqu'un atteint de troubles psychiatriques importants. Accusé d'avoir provoqué la mort de Heather Heyer, 32 ans, et d'avoir blessé une trentaine de personnes dans la foule avec sa voiture, James Alex Fields plaide non coupable. Ses avocats ont tenté en vain de délocaliser le procès qui aura bien lieu à Charlottesville. Leur client risque la peine de mort.
Midi 42 sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
La nouvelle investigation planétaire menée par le Consortium international de journalistes d'investigation dénonce ce matin des révélations stupéfiantes s'agissant des implants médicaux. En particulier, elle dénonce les lacunes du contrôle des implants en Europe, notamment en France, en évoquant des incidents de plus en plus nombreux. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Des incidents de plus en plus nombreux et difficiles non seulement à quantifier, mais aussi à identifier.
Oui, 16 médias ont essayé dans toute l'Europe d'obtenir des statistiques sur les prothèses et autres dispositifs médicaux sans succès. En France, cependant, il y aurait l'an passé 18 208 accidents ou dysfonctionnements qui auraient doublé quand ils ont triplé en Allemagne, par exemple, sur ces 8 dernières années, avec 224 décès tout de même toujours outre-Rhin sur l'année 2017 où les données ont l'air un peu plus fiables que chez nous. De toute façon, vous l'avez dit, la législation européenne est très insuffisante en termes de traçabilité des accidents, donc, mais surtout d'homologation de tous ces appareils médicaux. Aux États-Unis, où la Food and Drug Administration a l'air plus sévère, ce qui n'empêche pas 82 000 morts sur 10 ans. Là, on a les chiffres précis. Il paraît que les industriels testent souvent leurs appareils sur le vieux continent moins draconien. Ici, en Europe, il existe pas moins de 50 organismes de certification, tous privés et tous concurrents, qui ont intérêt à valider le plus de dispositifs médicaux possible pour gagner de l'argent. Ainsi, l'enquête montre qu'en Allemagne, par exemple, un citoyen allemand s'est fait poser une prothèse de hanche en 2005, autorisée en Europe depuis 2 ans, mais fabriquée par un Américain qui n'avait pas obtenu la commercialisation aux USA. Résultat, après 4 ans de souffrance, le patient, Jürgen, a été réopéré, la prothèse métallique s'était désagrégée, tout comme son os, devenu contenus gris et spongieux. Il vient d'obtenir 25 000 euros de dédommagement du laboratoire. Alors ce n'est qu'un exemple. En Europe, on a aussi testé un pacemaker Nanostim qui était à court de batterie, ou l'implant mammaire Trilucent dont l'huile de soja est devenue rance chez des milliers de femmes. Autant de produits que les Américains ont essayé chez nous. Ajoutons quand même qu'une nouvelle législation européenne est en préparation pour 2020, mais sera appliquée graduellement.
Merci Tara Schlegel. Une centaine d'interpellations, 28 gardes à vue prolongées, 47 personnes d'ores et déjà présentées à la justice, mais aussi pas moins de 5000 grenades lacrymogènes lancées par les forces de l'ordre, soit plus d'une par minute du jamais vu. Samedi dernier, l'acte 2 de la mobilisation des Gilets jaunes dans la capitale a soudain basculé dans la violence et laissé la place à un véritable champ de bataille, en dépit de la présence de quelques 3000 forces mobiles appelées pour boucler un périmètre interdit d'accès, incluant notamment les abords de l'Elysée, la partie basse des Champs-Élysées et la place de la Concorde. Les autorités redoutaient en effet l'infiltration de casseurs. Et de fait, au final, ces images de fumée noire au-dessus de barricades incendiées, de feux tricolores arrachés, de pavés décellés auront fait le tour du monde. Or, face à cette violence, tout le week-end, les éléments de langage distillés par l'exécutif auront été, on ne peut plus clair, diaboliser les gilets jaunes en les associant à l'extrême droite. Alexandra Dubouchereau, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour.
Le vocabulaire choisi par l'exécutif semble tenter d'imposer cette idée que le mouvement des gilets jaunes serait aujourd'hui une affaire de l'extrême droite, et ce faisant, que la politique française se résumerait une fois de plus à un simple face-à-face au fond entre Marine Le Pen d'un côté et Emmanuel Macron, les nationalistes et les progressistes.
Oui, c'est avant-hier que le mouvement a véritablement pris une tournure politique avec, vous l'avez dit, ces heurts sur les Champs-Élysées. Des heurts, et là je cite le préfet de police de Paris ce matin, menés par des commandos largement infiltrés, inspirés et manipulés par des membres de l'ultra-droite. L'ultra-droite, terme déjà employé dès samedi par le ministre de l'Intérieur. Pour Christophe Castaner, ces casseurs sont des séditieux de la mouvance d'ultra-droite qui ont répondu à l'appel de Marine Le Pen. Son collègue à l'action et au compte public, Gérald Darmanin, lui va jusqu'à évoquer la peste brune en référence au fascisme. Réponse de la présidente du Rassemblement National, le gouvernement veut détourner l'attention des revendications des Gilets jaunes. Une théorie qu'elle a martelée tout le week-end. Alors, dans cette mobilisation et à 6 mois des élections européennes, l'exécutif chercherait-il à installer un duel Macron-Le Pen ? Rappelons que leurs partis sont au coude à coude dans les sondages. Le Rassemblement national arriverait même en tête selon l'étude de l'IFOP du 18 novembre dernier. Pour le président de la République, ce sera le premier grand test électoral du quinquennat et on le voit en ce moment parcourir la France et l'Europe pour opposer, vous l'avez dit, le camp des progressistes et le camp des nationalistes. Mais ce duel, il ne plaît pas vraiment aux autres dirigeants des partis et surtout pas à Jean-Luc Mélenchon qui se voit en numéro 1 de l'opposition. Ce matin, son lieutenant, le député Alexis Corbière, a lui aussi dénoncer une instrumentalisation du chef de l'État. Il faut que la France insoumise essaye, ajoute-t-il, d'être un instrument cohérent pour que cette colère des gilets jaunes se transforme en proposition pour le pays. Finalement, dans cette mobilisation, on ne sait pas bien qui instrumentalise qui fait de la récupération politique, peut-être bien tout le monde.
Merci Alexandra Dubouchereau. Alors pour l'heure, le président Emmanuel Macron n'a pas directement répondu aux gilets jaunes comme le reste de l'exécutif. Il a pour l'essentiel dénoncé les violences, mais le chef de l'État assure toujours vouloir en revanche garder le cap de la transition écologique, en particulier avec un pacte social d'accompagnement dont certaines mesures doivent être détaillées aujourd'hui en Conseil des ministres. C'est le cas notamment avec la présentation aujourd'hui par la ministre des Transports, Elisabeth Borne, de son projet de loi d'orientation pour la mobilité. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas.
Initialement annoncé pour le printemps, la présentation de ce texte a été plusieurs fois retardée, notamment en raison de la réforme ferroviaire. Désormais, il s'intègre à la volonté du gouvernement de désenclaver la France dite périphérique, ce que l'on pourrait désigner comme le terreau justement des gilets jaunes. Il s'agira par exemple de réhabiliter les transports du quotidien. Et puis dès hier, le gouvernement a annoncé qu'il entendait finalement exclure les péages urbains de son projet de loi. Alors sans doute faute de villes candidates, mais aussi et surtout pour ne pas accentuer les fractures entre territoires.
Et oui, si les péages urbains et la taxe poids lourd ne sont plus d'actualité, rien ne dit que ces mesures ne reviendront pas sur la table dans les prochains mois, une fois la colère des gilets jaunes passée, mais aussi aussi l'arrivée du texte de la loi mobilité à l'Assemblée nationale en février. D'autant qu'officieusement, une quinzaine de villes voudraient limiter la circulation des véhicules thermiques dans leur centre-ville. C'est donc pour leur envoyer un signal positif à ces gilets jaunes que le gouvernement doit faire des annonces pour combattre les difficultés de mobilité dans les territoires où la voiture est souvent le seul moyen de transport, notamment en zone rurale. Une autorité chargée de traiter ce sujet va donc être instaurée partout, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le texte prévoit également des investissements massifs dans les infrastructures ferroviaires pour les 10 prochaines années, avec une priorité donnée aux trains du quotidien, les TER en province, les RER en région parisienne et non plus aux tout TGV comme ce fut le cas ces 10 dernières années. Ce qui doit se traduire concrètement par une aide de l'État de 2,6 milliards d'euros. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, promet également de doubler les moyens alloués à la rénovation du réseau ferroviaire, notamment les lignes les plus en difficulté où les trains circulent lentement. Enfin, parallèlement, le gouvernement Thomas Planche également sur la réduction des coûts du réseau routier non concédé, soit 12 200 km de routes nationales vieillissantes et qui ont besoin d'argent frais pour être renouvelées. Les arbitrages s'annoncent déjà très sensibles car un rapport préconise déjà un transfert aux collectivités locales qui sont asphyxiées ou bien aux entreprises privées comme Vinci ou Eiffage.
Merci Hakim Kasmi. Alors on le voit, ce mouvement des gilets jaunes se cristallise en partie aujourd'hui entre ceux qui redoutent les fins de mois difficiles et puis ceux qui s'alarment de la fin du monde compte tenu du dérèglement climatique ou quand les enjeux climatiques se heurtent parfois à la réalité du quotidien et à des mesures jugées par beaucoup comme punitives. Alors il se trouve qu'aujourd'hui débute un événement international annuel, le Climate Finance Day, réunissant tous les acteurs majeurs du secteur de la finance afin de trouver des solutions aux problématiques du réchauffement climatique. Et pour en parler avec nous, invité de ce journal, Fanny Petitbon, responsable plaidoyer pour l'ONG Care France. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous suivez notamment les négociations internationales sur le climat depuis 2014 et puis avec moi en studio pour vous interroger, Véronique Robert-Roth, spécialiste environnement de la rédaction. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Madame Petitbon, on a défini il y a 3 ans en somme un plan d'action contre le climat. Et 3 ans après, le but donc de cette COP24 qui ouvrira dimanche, c'est de définir des règles d'application de l'accord de Paris qui a réaffirmé notamment l'engagement de la communauté internationale à limiter à 2 degrés l'augmentation de la température de la planète d'ici la fin du siècle. Cela veut dire que c'est finalement seulement 3 ans après que l'on essaie de savoir comment parvenir à ces moyens.
Alors effectivement, la COP24, c'est un peu le test de crédibilité de l'accord de Paris. C'est savoir si les États sont vraiment sérieux et prêts à mettre en œuvre les engagements qu'ils ont pris il y a 3 ans. Comme vous le disiez, c'est d'abord, avant tout, finaliser le manuel d'application de l'accord de Paris. Et c'est une tâche qui est extrêmement délicate parce que les pays ont pris beaucoup de retard. Il y a plus de 307 pages à l'heure actuelle. Et c'est extrêmement important parce que c'est ces règles qui vont permettre de suivre les engagements pris par les États, de faire des bilans tous les 5 ans et de revoir les objectifs toujours vers le haut. Mais c'est aussi apporter une réponse au récent rapport des experts scientifiques du climat, le rapport du GIEC, sur le fait qu'on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Les États, au moment de la COP21, ont mis sur la table leur copie, ils ont rendu leur copie, et même s'ils faisaient tout ce qu'ils se sont engagés à faire, on serait sur une trajectoire de réchauffement de 3 à 4 degrés d'ici la fin du siècle. Or, c'est inadmissible. On ne peut pas dépasser les 2 degrés, et si possible, il faut rester en dessous du degré et demi. Donc il faut absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici entre 2010 et 2030 et surtout atteindre une neutralité carbone entre 2045 et 2055.
Une question de Véronique Robert-Roth.
Fanny Petitbon voit bien l'ampleur de la tâche. Le retrait américain de l'accord de Paris, aussi le Brésil qui est prêt à lui emboîter le pas. Les nouvelles sont vraiment pas très bonnes sur le front du climat quand même.
Alors c'est vrai que c'est un contexte diplomatique très difficile, mais on voit quand même une volonté, notamment la semaine dernière, avec des États les plus vulnérables au changement climatique, donc 48 États, qui se sont engagés à revoir les fameuses copies qu'ils avaient mises sur la table au moment de la COP21. Donc il y a vraiment une volonté de s'engager. Il y a aussi tout un mouvement citoyen, un mouvement des entreprises sur les engagements climatiques, mais qui ne peut pas se substituer, évidemment, à l'action des États. Donc vraiment, la COP24, c'est le moment moment pour les États de montrer que ils vont apporter une réponse pour le bien-être de leur population, à la fois à leur échelle, mais aussi au-delà de leurs frontières.
En matière de financement également, il y a une nécessaire solidarité dans ces discussions climat entre pays riches, pays pauvres. Les pays en voie de développement qui subissent déjà très fortement les effets du réchauffement climatique ont besoin d'argent, de milliards, pour s'adapter à ce réchauffement climatique. On leur avait promis il y a quelques années 100 milliards d'euros par an, 100 milliards en 2020, tous les ans. Où en est-on ?
Alors, on en est très loin. On a certes eu de récents chiffres qui disaient que les financements climat ont augmenté en 2015 et 2016, mais on est très loin d'un 100 milliards, c'est-à-dire qu'il y a seulement 55 milliards qui ont été mobilisés en 2016, et c'est une goutte d'eau par rapport à l'océan des besoins. Pour vous donner une idée, il faudrait 300 milliards par an en 2030, simplement pour répondre aux besoins d'adaptation des pays en développement, c'est-à-dire comment améliorer leur technique agricole, comment faire face à la montée du niveau des mers. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gros déséquilibre entre l'argent, les financements climat qui sont alloués à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce qui est mis pour les efforts d'adaptation. Donc les petites îles, les États en voie de développement sont particulièrement dans le besoin. Vraiment, l'adaptation est le parent pauvre, ça représente à peu près 20 à 30% des financements climatiques. Et puis, ce qui est très important aussi de voir, c'est que, par exemple, la France qui met de l'argent sur la table en termes de financement climat, il y a seulement 10% qui sont sous forme de dons. C'est-à-dire tout le reste est sous forme de prêts et ça crée un cercle vicieux de la pauvreté pour ces pays-là. Et enfin, les investissements dans les énergies fossiles sont toujours 2,5 fois plus élevés que dans les énergies renouvelables. Donc il y a encore énormément de choses à faire pour un changement de fond de nos pratiques, de notre consommation, de nos investissements.
Et on terminera sur ce constat. Merci Fanny Petitbon, responsable plaidoyer pour l'ONG Care France. Et merci également à Véronique Robérot. On termine avec un mot du temps. Pour aujourd'hui, gris et pluvieux sur une grande partie du pays. Tout juste le soleil parviendra-t-il à faire quelques apparitions sur le pourtour du golfe du Lion. Les températures, elles seront comprises entre 4 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.